Bienvenue sur Par ici Podcast, le podcast des entrepreneurs en région.
Les freins classiques sont l'accès au logement, la mobilité, le surendettement, des choses de ce type-là. Arrêtons d'imaginer que l'addiction peut être le premier frein. Il est très 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 loin dans nos statistiques.
Chaque semaine, dénichez des concepts proches de chez vous. Découvrez les mécanismes cachés d'un secteur d'activité et nourrissez votre ambition grâce à des parcours de vie inspirants.
Douter, pour moi, c'est très profond et ça remet beaucoup de choses en place. Donc je n'ai pas ce doute, voilà, je n'ai pas ce doute de la position d'envoi, je n'ai pas de doute sur ma position sur envoi. Par contre, ben, en tant que dirigeant, de temps en temps, on peut hésiter à prendre une décision.
Dans cet épisode, je pars à la rencontre de Thierry Pageot, directeur général du groupe Envoi. Avec 6 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 120 salariés, le groupe Envoi est aujourd'hui le premier groupe de la région Occitanie réunissant l'insertion par l'activité économique et le secteur adapté. Loin des clichés sur l'entreprise sociale et solidaire, Thierry nous présente son secteur d'activité, sa vision de l'insertion et du handicap sur le marché du travail et sa lecture du doute en tant que dirigeant. Pour ne manquer aucun épisode de Par ici Podcast, pensez à vous abonner à votre plateforme d'écoute préférée. Inspirez, Par ici, c'est parti. Salut Thierry.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Très bien, merci. Et toi?
Eh ben ça va très bien. Avant de commencer, pourrais-tu nous dire qui tu es?
Eh ben, je suis Thierry Pageot et je suis le directeur général d'Envoi, une structure de l'économie sociale et solidaire basée sur Toulouse.
Ok. Et est-ce que tu pourrais en dire un peu plus sur le groupe Envoi?
Oh, oui, je peux en dire un peu plus. Bah, déjà, t'en as dit une petite partie, le groupe Envoi. Voilà, donc c'est très prétentieux, mais effectivement, Envoi est un groupe. Pourquoi un groupe? Tout simplement parce qu'à la base, c'est une association, loi 1901, avec toutes les vertus d'une association, c'est-à-dire que on va générer de l'économie, mais qui ne va pas être redistribuée puisqu'il n'y a pas d'actionnaire, que l'ensemble des administrateurs et le président sont bénévoles, ce qui n'est pas mon cas. Et le groupe Envoi, donc, cette association dispose en son sein de deux entreprises, donc deux SAS. Donc là, on parle vraiment de société, une entreprise d'insertion et une entreprise adaptée.
Okay.
L'entreprise d'insertion, bah, dans ses statuts, naturellement, a pour objectif de remettre à l'emploi des gens qui en sont éloignés, je qualifierais plutôt pour des raisons sociales. Et l'entreprise adaptée, ben, une fois de plus, comme l'indique son nom, on va plutôt ramener à l'emploi des gens qui sont éloignés de l'emploi pour des raisons plutôt physiques cette fois-ci, liées à leur handicap. Donc l'objectif d'Envoi, hormis remettre ces gens au travail, c'est surtout de les faire rebondir dans un objectif d'extériorisation de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va accompagner ces personnes sur une durée. Alors sur le monde de l'insertion, c'est très calibré. C'est-à-dire qu'on doit les garder au maximum pendant 2 ans. Et pendant 2 ans, les accompagner pour qu'ils puissent reprendre les codes du travail, tout simplement. Se relever le matin, refaire un travail et surtout inscrire un projet. C'est-à-dire que notre première étape dans notre accompagnement va plutôt être de lever les freins à l'emploi.
Okay.
Alors les freins classiques sont l'accès au logement, la mobilité, le surendettement, des choses de ce type-là. Arrêtons d'imaginer que l'addiction peut être le premier frein. Il est très 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 loin dans nos statistiques. Il arrive même assez rarement. Donc on va d'abord les aider à lever tous ces freins, parce que si on n'est pas bien dans sa vie, ben on ne peut pas être bien au travail. Et on ne peut pas, après 2 ou 3 ans de rupture, 2 ou 3 ans de RSA, revenir au travail si on n'a pas trouvé des solutions pour lever tous ces freins. Donc on va d'abord les aider à lever ces freins, tout en les mettant au travail.
Okay.
Et puis une fois que ces freins sont levés, au bout de souvent de quelques mois, on va leur demander de s'inscrire dans un projet professionnel qui est le leur, pas le nôtre. Donc nous, on a un projet professionnel, c'est-à-dire l'emploi que l'on va leur offrir est un véhicule. D'accord. Donc nos partenaires clients vont nous offrir de la sous-traitance qui va être le véhicule pour que ces gens-là puissent rebondir.
Okay.
Donc j'ai pris l'exemple de l'entreprise d'insertion, tout simplement parce que c'est le côté légal. Donc c'est l'objectif. Dans le monde de l'insertion, on doit objectivement avoir 70% de rebond positif. C'est-à-dire qu'on parle de turnover positif. Donc nous, on va générer du turnover. Donc c'est rare, les entreprises qui sont heureux de leur turnover. Nous, on va être heureux de notre turnover et on va générer 70% de turnover sur ce délai de maximum 2 ans. Donc un parcours chez Envoi, c'est sensiblement en moyenne 9 mois dans l'insertion.
Okay.
Donc on est plutôt bon avec cet objectif des 70% qui est tenu.
D'accord.
Donc on a 70% des gens qui vont rester un peu moins d'un an et qui vont en sortie trouver soit un CDI, soit un CDD de plus de 6 mois, soit une formation qualifiante.
D'accord.
Voilà. Et donc là, bah, après, on les retrouve chez nos clients, en règle générale, ou chez d'autres partenaires. Et on est toujours fiers de retrouver ces anciens collaborateurs qui ont passé quelques mois avec nous. Donc dans le monde de l'handicap, c'est un petit peu différent, même si Envoi existe depuis bientôt 25 ans, à commencer par le monde de l'insertion. Donc on comprend que cet ADN de l'insertion, du reste, j'ai commencé par parler de ça, est très profond. Et donc on est dans ce monde de l'handicap depuis 7 ans seulement. Et donc c'est une des particularités d'Envoi, une des rares entreprises en Occitanie, voire même en France, à associer le monde de l'insertion et le monde de l'handicap. C'est-à-dire qu'on a un petit peu d'avance sur ce que j'imagine être les changements de loi demain, où on parlera d'inclusion et on mélangera un petit peu tout le monde. Ben, nous, on le mélange déjà un petit peu, sous certaines formes, tout au moins. Et donc on est rentré dans ce monde de l'handicap il y a 7 ans, avec finalement le même objectif, un objectif plutôt de tremplin. Alors, juste pour donner quelques chiffres, donc on n'a pas l'objectif de 2 ans, hein, donc on va garder les gens, si nécessaire, beaucoup plus longtemps, voire même ne pas les pousser du tout dehors.
Ouais.
Donc on a des gens qui sont avec nous depuis le début de l'aventure de l'handicap. Et le taux moyen en France de sortie d'entreprise adaptée est de 0,4%. Donc très, 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 très faible.
L'inverse voilà. Du turnover positif.
Et donc, et ben nous, on génère un turnover positif sur ce monde de l'handicap qui est que de 15%. Mais comparé au turnover national, il est énorme. Voilà, donc nous, tous les ans, on a la chance de boire le champagne parce que des gens nous quittent. Voilà. Et donc, dans le monde de l'handicap, le champagne a encore plus de goût parce que bah, la difficulté est plus importante. Alors, elle est plus importante à plus d'un titre. D'abord parce que certaines entreprises adaptées, ce n'est pas notre cas, sont organisées pour conserver les gens parce que les gens ont besoin d'être accompagnés très longtemps. Et donc, je ne leur jette pas la pierre en disant ça. Hein. C'est qu'il y a une population qui le nécessite. Et en plus, nous, en autre difficulté, c'est qu'on a visé une population plutôt sous-diplômée. Donc, notre cible de population, que ce soit insertion ou handicap, c'est plutôt bac-2, bac+2.
D'accord.
On l'a défini comme ça. Voilà. Et donc, pourquoi bac-2, bac+2 ? Ben, tout simplement parce que dans les statistiques, c'est les gens qui ont besoin qu'on les aide de revenir à l'emploi. Que dans les statistiques du monde de l'handicap, 80 à 90% des gens en situation de handicap n'ont pas le bac. Et donc, bah, finalement, on a trouvé que c'était trop facile de faire du bac+5 dans ce monde de l'handicap et que peut-être ces gens-là avaient moins besoin de nous. Et il y avait peut-être aussi d'autres structures qui faisaient ça. Donc, on vise plutôt un cœur de cible de gens à accompagner, bac-2, bac+2. Donc, ce qui rend peut-être ces 15% encore un petit peu plus beaux. D'accord, c'est-à-dire qu'on arrive à faire ce turnover positif sur ce monde de l'handicap. Donc l'ADN est très profond sur cet accompagnement au rebond. Donc les changements légaux nous accompagnent dans ce sens-là, puisque donc, le modèle de l'insertion vient d'être dupliqué sur le modèle de l'handicap.
Okay.
Donc il y a plusieurs entreprises dans plusieurs régions qui ont été retenues pour expérimenter ce nouveau modèle. Nous sommes, à ma connaissance, 2 en Midi-Pyrénées avoir été retenus pour expérimenter ce modèle. Pour nous, c'est peut-être plus facile parce qu'on a déjà tous les mécanismes d'accompagnement au rebond. Après, ben, ça reste toujours difficile parce que ben, les grandes difficultés sont de trouver des clients partenaires qui vont nous confier de la sous-traitance et qui va nous permettre d'accompagner ces gens-là et donc les accompagner surtout dans le monde de l'handicap et souvent avec de la formation. Puisque autant dans le monde de l'insertion, on peut imaginer que les gens rebondissent sur des métiers totalement différents, voilà, que dans le monde de l'handicap, très souvent, ils veulent continuer à faire le métier qu'on leur a offert chez Envoi. Donc, eh ben, il nous faut des partenaires qui sont susceptibles de les accueillir derrière.
Ok, c'est très clair. Merci déjà pour ce pitch engagé. C'est très appréciable de voir des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Du coup, dans votre structure chez Envoi, Envoi Ops, donc c'est la structure d'insertion par activité économique.
Voilà. Et envoie Hans.
Et envoie Hans pour l'handicap.
Pour l'entreprise adaptée.
Du coup, tu disais tout à l'heure qu'ils avaient donc une activité en place. Mais concrètement, du coup, ils font quoi, les salariés ?
Alors, on a quatre grands pôles d'activité. Elles sont très souvent, de toute manière, même toujours, liées aux clients partenaires. Vous remarquerez que tous, quand vous m'écoutez, que je parle toujours des deux à la fois. Ce ne sont pas que des clients. Il faut à tout prix que ce soit aussi des partenaires. Donc, il y a 25 ans, on a eu la chance d'avoir deux belles marraines sur le berceau d'envoi. D'une part, la mairie de Toulouse, qui s'est beaucoup engagée. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes encore en QPV. Hein. C'est cet engagement que l'on a à côté de la mairie de Toulouse. Et puis la deuxième belle fée, c'est à l'époque aérospatiale, donc Airbus aujourd'hui. Donc on a des activités naturellement autour de ce client partenaire essentiel. Donc on a des activités autour de l'aéronautique. Je disais qu'une de nos particularités, c'était d'être à la fois EI et EA, entreprise d'insertion, entreprise adaptée. Une de nos autres particularités, c'est d'être aussi qualifié EN9100, qui est le plus haut niveau de qualité. Tout le monde connaît ou presque l'ISO 9001. Le N9100, c'est encore un peu plus.
D'accord.
Pour le monde de l'aéronautique, tout simplement parce qu'on a des collaborateurs qui sont sur les chaînes d'assemblage, qui ont en autonomie d'équipe des postes de test au sol sur les chaînes de l'A320, de l'A330, et qui vont, comme on dit dans notre jargon, libérer l'avion. C'est-à-dire que, donc, ils vont faire des tests, ils vont faire du troubleshooting, donc du dépannage de premier niveau. Et une fois que l'avion est dans un bon état fonctionnel, par rapport aux tests qui leur ont été demandés naturellement, eh ben on va tamponner avec notre tampon qualité l'avion pour qu'il puisse passer à l'étape d'après. Et donc on va faire ça avec sensiblement 20 à 25% de gens en insertion qui vont nous aider et contribuer à libérer l'avion. Libérer l'avion, ça prend des conséquences énormes d'un point de vue assurance. Hein. C'est-à-dire que si demain il y a un crash... et qu'on s'aperçoit que les tests que nous avons faits, qui sont des tests électriques, des tests systèmes, sur des gros systèmes qui peuvent être des fois des systèmes hydrauliques ou des choses de ce type-là, ont été mal faits, votre serviteur va en prison, quoi. Parce qu'on doit, cette qualité, une qualité que l'on offre à notre client, y compris avec des gens donc en insertion.
Et donc à l'inverse, du coup, il va y avoir peut-être un sentiment de satisfaction aussi de la part des personnes qui travaillent.
Non seulement, qui
voient que leur travail a un impact justement sur une entreprise telle qu'Airbus.
Non seulement un sentiment de satisfaction, puisqu'on contribue à un bel objet quand même, cet avion, et un beau succès commercial, puisqu'on est sur la 320.
Hein, oui,
et la 330, mais malgré tout sur la 320. On a été sur la 380, qui était aussi un fleuron. Hein. Pas économique soit, mais au moins technologique.
Au moins technologique.
Voilà, et donc, ça crée beaucoup de fierté, et puis ça crée surtout un rebond qu'on imagine tout de suite positif, puisque les cadences sont plutôt à l'augmentation. Donc, les gens qui nous quittent au bout d'un circuit d'une douzaine de mois sur ce monde de l'aéronautique, vous imaginez tous qu'ils trouvent très rapidement un rebond dans une autre entreprise, sur la région de Toulouse, voire même ailleurs, ou pour les plus gourmands, ils vont en circuit de qualification pour faire ajusteur, monteur dans le monde de l'aéro, et ils vont sur des formations longue durée de type qualification importante, et on les retrouve en face de nous au bout de quelques années. Donc c'est très gratifiant pour tout le monde, et en plus pour nous, parce qu'on voit, le résultat de notre mission quand on retrouve chez nos confrères, et néanmoins concurrents, mais confrères du monde ordinaire, certains de nos collaborateurs qui sont passés chez nous. Voilà, donc c'est très très gratifiant. Donc ça, c'est la première activité qui est en nombre la plus importante, hein, puisqu'on est 40 à 50 personnes à travailler sur le monde de l'avion lui-même, puisqu'à côté de ça, on va faire également de l'assistance au suivi qualité, de l'assistance à la logistique, et de l'assistance à la gestion de projet. Donc en tout, grosso modo, une cinquantaine de personnes qui ont travaillé sur ces activités aéronautiques. Sur les 130 qu'on t'envoie, c'est quand même un point assez important. La deuxième activité, toujours grâce à ce client partenaire, on a la chance de gérer la logistique retour de tous leurs PC dans notre site de Colomiers.
Okay.
Donc, essayez d'imaginer qu'il y a 60 000 PC en leasing chez Airbus. Voilà. Et donc, un leasing de PC, c'est 3 ans. Donc, tous les ans, ils nous passent 20 000 PC dans les mains.
C'est pas mal.
Voilà.
C'est pas mal.
Donc, là, avec une équipe essentiellement en insertion, sur les 15 ans passés, on n'a pas perdu un PC. Donc, notre première mission, c'est d'abord d'enregistrer le numéro de série du PC qui rentre chez nous, pour garantir qu'on ne l'a pas perdu. La deuxième, c'est d'auditer son état. Et très rapidement, la troisième, c'est d'effacer et de garantir au client qu'il n'y a plus la moindre donnée sur ces PC.
Bien sûr, là, on est sur la donnée sensible, si c'est des PC d'Airbus.
Potentiellement sur de la donnée sensible. Donc, on a naturellement des logiciels qui vont, à notre place, effacer la donnée, qui va bien plus qu'un format de C2. Hein. On fait l'équivalent de votre grignoteuse à papier sur le disque dur. Donc, on met des zéros partout. Voilà. De manière aléatoire, et donc on ne peut pas restituer la donnée, c'est absolument impossible. Donc après, une fois ces PC blanchis, puisque c'est notre jargon, on va constituer des palettes, et ces palettes vont être transportées après chez le leaser, qui va potentiellement donner une deuxième vie au PC. Okay. Deuxième vie que nous, on peut lui donner aussi, c'est-à-dire que sur ces 20 000 PC, on en récupère sensiblement 10%, un peu plus de 2 000 tous les ans. On vend à notre boutique de Colomiers.
Okay.
Donc la troisième activité est une activité de support administratif. Donc là, on va plutôt intervenir sur du travail de secrétariat en soutien aux gros services administratifs de nos clients. Pour faire du soutien aux achats, pour faire du soutien aux ressources humaines. Et pour faire du soutien, une fois de plus, à la digitalisation, à la numérisation, à la transformation numérique des entreprises. Et enfin, la dernière activité est une activité de collecte itinérante de données. Alors, c'est très prétentieux comme nom, on en a conscience, mais tout simplement parce qu'on a démarré cette activité il y a maintenant assez longtemps avec des clients partenaires, une fois de plus, en l'occurrence Enedis.
Okay.
Et avec Enedis, on relève l'ensemble des compteurs électriques de la grande métropole toulousaine. Il y a encore peu de temps, on faisait le gaz et une partie de l'eau sur cette grande métropole toulousaine. Le gaz, pour différentes raisons, nous l'avons perdu, mais on continue toujours l'électrique. Mais on continue avec de moins en moins de charges. C'est-à-dire, il y a 3 ans, quand je suis arrivé chez Envoi, on faisait 100 000 compteurs par mois. Et aujourd'hui, on en fait un peu moins de la moitié.
Okay.
Voilà. Et donc on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait demain? Donc Enedis, qui est un bon partenaire, nous a dit gentiment, ça va se finir, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et c'était la question que je venais leur poser également. Et puis ils nous ont dit, il y a un sujet que l'on n'appréhende peut-être pas très bien, qui est l'inspection de voirie. Donc l'inspection de voirie, c'est Enedis fait un trou parce qu'il passe un câble ou des choses de ce type-là. Et puis, c'est un sous-traitant qui vient le faire, et Enedis n'a pas obligatoirement le temps ou les moyens humains d'aller vérifier la qualité du travail rendu. Et donc, de temps en temps, y a des choses qui sont pas bien faites ou mal finies, mais pas toujours, heureusement. Et ils ont dit, allez sur nos chantiers et vérifiez l'état. Je dis, d'abord, il faut les identifier et puis savoir ce qu'il y a à faire. Donc, ils m'ont gentiment donné un plan de masse de la voirie avec la description de leurs travaux. Et malgré toute ma prétention et mon bac plus 5, le plan de masse, je l'ai retourné dans tous les sens. Et j'ai enfin compris ce que pouvait ressentir une poule devant un couteau. J'ai eu du mal à comprendre ce plan de voirie du premier coup, comme ça. Et je me suis dit, si je mets ça dans les mains de mes collaborateurs habituels, ils vont être, comme moi, complètement perdus. Donc on va faire autre chose. Et l'autre chose nous est venue très rapidement à l'idée, c'est le plan de masse. On a vu très rapidement que finalement, ça ressemblait à un plan de votre rue, quoi. Et donc, on a mis en transparence le plan de masse sur la Google Maps.
Okay.
Et donc, on a mis un outil naturellement dans les mains de nos collaborateurs. Et tout simplement, ils arrivent sur le chantier à tester via la Google Maps. Et arriver à l'endroit où il y a un truc à faire... il y a un petit peu de réalité augmentée qui leur apparaît sous les yeux. Et à cet endroit-là, ils ont une balise qui leur dit, t'es au bon endroit, et à cet endroit-là, tu dois vérifier que.
Okay.
Une seule vérif, une par une. Et puis pas 36 choix, c'est bien, c'est pas bien. pas de peut-être. Voilà. Donc, par exemple, tu es au bon endroit, vérifie que les zébras ont bien été redessinés. Ce qui peut arriver, hein, c'est que le sous-traitant, il ait fait le trou, il est bien rebouché, mais il a pas repeint le passage pour piétons. Et tous les gens qui vont traverser sont finalement en danger. Et qui prend la responsabilité du danger ? Ben, naturellement, c'est celui qui a fait le trou.
Bien sûr.
Voilà.
D'accord, c'est un contrôle qualité.
Donc, on leur dit, ben, c'est de l'inspection. Voilà. Donc, on leur dit, à cet endroit-là, vérifie ça. Donc, oui, non. Et prend des preuves, donc là,
photos,
tout simplement, puisque l'outil va le permettre. Une fois qu'ils ont pris les preuves, ils disent, ben voilà, j'ai fini ce point-là, et on les accompagne automatiquement au point suivant du chantier, etc., etc. Et puis quand ils ont fini le chantier, et qu'ils ont fait tous les points sur le chantier, et ils appuient sur envoi, je l'adore celle-là, ils appuient sur envoi, et en back-office, sur l'ordinateur, sur le serveur, le compte-rendu est directement envoyé au client.
Ok. Et donc là, tout à l'heure, tu as parlé de justement comment est-ce que vous accompagnez les salariés à l'après-envoi, justement, embellissant leur CV, en mettant en valeur leurs compétences ou leurs qualités professionnelles qu'ils avaient acquises durant leur expérience. Mais qu'en est-il quand ils sont au tout début, il ou elle, on s'en moque, le premier pas de cette étape où la personne est éloignée de l'emploi, comment est-ce qu'on fait pour la passer de 0 à 1 ? Comment est-ce qu'envoi accompagne, peut-être avec des partenaires
En vérité, ça commence même avant. J'ai fait pas loin de 30 ans dans le monde de l'ingénierie. Quand je suis arrivé chez Envoi, je me suis dit, chouette, j'ai un problème de moins, c'est le recrutement, parce que j'ai 3 millions de chômeurs devant moi. Et finalement, c'était une erreur énorme, tout simplement parce qu'il y a un nombre d'invisibles, voilà, c'est, je crois, le bon terme, qui sont vraiment très très éloignés de l'emploi et des gens qui sont vraiment difficiles à les toucher, qui ne sont pas obligatoirement bénéficiaires du RSA ou des choses de ce type-là. Et donc, notre première difficulté quand je suis arrivé il y a 3 ans, c'était d'avoir des gens que l'on pouvait remettre dans les circuits d'insertion. Malgré toute la bonne volonté des institutions, hein, c'était quand même difficile. Donc on a mis en place, déjà en amont, tout un circuit avec des écoles qui elles-mêmes réinsèrent, avec des associations locales, avec des maisons communes de quartier, avec naturellement à l'arrivée toujours Pôle emploi, Cap emploi, avec tous ces gens-là. Et on anime aujourd'hui un petit réseau d'une quarantaine de prescripteurs toulousains. Et donc on réunit ces 40 prescripteurs, environ 40, hein, 2 fois par an dans nos locaux pour qu'on échange avec eux, mais qu'ils échangent entre eux aussi. Parce que tout simplement, cet endroit où on peut échanger simplement sur des problématiques de terrain, d'accord, n'existe pas. Et donc cet endroit d'entraide sur les prescripteurs n'existait pas. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on a des gens qui sont des travailleurs sociaux, qui cherchaient des voies de sortie, n'avait pas d'issue, et nous on cherchait des gens à faire rentrer et on n'avait pas de collaborateurs, et finalement d'être allé vers eux et eux vers nous, mais finalement on a résolu communément nos problèmes. Donc avant de passer à 1, il fallait déjà passer à 0 un petit peu plus. D'accord. Voilà, donc aujourd'hui on a résolu ces problèmes là et on arrive à identifier à chaque fois le nombre de profils que l'on a besoin. Je vous rappelle que je vous ai parlé d'un turnover positif de 70%. D'accord. Donc on fait sensiblement 50 à 60, 70 embauches par an, sur le contrat, puisqu'on a un turnover 9 mois. D'accord. Donc,
gros service RH.
Donc on a obligatoirement un gros service RH, d'autant plus que dans la responsabilité du service RH, il y a également tout l'accompagnement social et professionnel.
Et ça justement, c'est quoi concrètement, cet accompagnement?
Concrètement, j'espère que les personnes qui sont de ce service RH ne vont pas m'entendre parce que je vais faire une caricature. D'accord, mais pour être mieux compris, les caricatures sont toujours plus faciles. J'aurais tendance à dire que dans un premier temps, le travail, il est d'abord assimilable, pas tout à fait, mais un petit peu au travail d'une assistance sociale. On va d'abord prendre en compte le contexte de la personne et ses difficultés au retour à l'emploi. Je citais un petit peu en introduction les problématiques de logement, de mobilité, etc. Donc toutes ces problématiques personnelles, d'accord, qui sont ces problématiques de retour à l'emploi. Donc on va vraiment l'accompagner, faire quelque chose du sur-mesure pour cette personne. Et puis une fois qu'on a stabilisé, donc là on est passé de 0 entre guillemets à 1, une fois qu'on a stabilisé toutes les problématiques de retour à l'emploi, mais qui sont des problématiques totalement personnelles, hein, on va pouvoir passer à la deuxième étape. Et donc là, dans la deuxième étape, pour continuer la caricature, on va plus être dans un monde plus proche de celui du conseiller de Pôle emploi. Mmh. À la petite différence, c'est que grâce à la première étape, naturellement, on a une très bonne connaissance de la personne, un échange qui s'est bien fait. On a quand même 3 conseillers en insertion professionnelle. Donc on accompagne en permanence environ 60 personnes. Donc si le courant passe pas entre la conseillère, parce que c'est essentiellement des dames, et la personne accompagnée, on change, tout simplement. Hein. Et puis si on divise, on fait les règles de 3, bêtement, elles ont 20 à 30 personnes à accompagner. Quand on fait les ratios de quelqu'un qui accompagne dans le même travail à Pôle emploi, malheureusement pour ces personnes-là, elles en accompagnent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Mmh. Donc on va faire un travail de proximité qui va être obligatoirement très différent et donc pas tout à fait comparable, mais c'est normal parce qu'on va avoir des moyens bien plus importants sur l'accompagnement, donc sur cet accompagnement professionnel. Okay. Donc là, on va pouvoir faire ce travail de conseiller progressivement. Donc j'ai fait une caricature en passant de l'un à l'autre. Naturellement, vous imaginez bien que tout est en biseau. Hein, on ne passe pas de 0 à 1 de cette manière-là.
C'est simple, bien voilà. Sûr.
Donc le travail de conseiller professionnel intervient dès le début malgré tout. Progressivement, prend plus la main. Et le travail d'assistance sociale diminue un petit peu, mais reste toujours prégnant de toute manière. Et prégnant sur toute la durée du parcours. Mmh. Voilà. Et voire même après, parce que ne serait-ce que pour des raisons comptables, on doit garantir nos sorties positives, donc on les suit après, d'accord. Et puis, pour notre satisfaction personnelle, on les suit après, et puis pour eux.
Pour mesurer votre impact aussi.
Voilà, et puis pour eux, parce qu'ils ont eu un échange privilégié pendant des mois avec certaines personnes, et puis de savoir qu'ils peuvent se retourner et d'avoir quand même quelqu'un avec qui causer, quelqu'un avec qui ils peuvent parler au téléphone, même si on n'est pas là de la même manière. On reste présent, elle reste présente parce que moi je fais rien dans ce cas-là, mais c'est leur travail au quotidien qui fait toute la valeur de l'accompagnement, et accompagnement qui chez nous est donc particulier parce qu'on va donner la même qualité d'accompagnement au monde de l'insertion, au monde de l'handicap, ce qui n'est pas le cas parce qu'il n'y a pas d'obligation, voilà.
Et est-ce que dans le milieu du handicap, pour les entreprises adaptées, du coup il y a ce même problème de recrutement?
Le problème de recrutement, oui, existe, bien sûr. Voilà.
Et après, comment est-ce que...
Pour les mêmes raisons, les gens sont invisibles, ont pris l'habitude de vivre avec leur handicap, ont eu des échecs scolaires, parce que leur handicap les a empêchés de réussir potentiellement leur vie scolaire. Et puis ils sont éloignés des systèmes et il faut aller les chercher. Donc là, pareil, on va avoir des réseaux de prescripteurs qui ne vont pas être tout à fait les mêmes. Mais c'est intéressant, c'est justement quand on les met 40 autour de la table, et on mélange tout le monde et on s'aperçoit que des fois on a des prescripteurs qui ont les mêmes handicap et insertion, et des fois les gens peuvent répondre à un des deux mécanismes aussi bien. Ça va dépendre de beaucoup de choses, mais on a cette même problématique d'invisibilité des travailleurs handicapés et qu'il faut aller chercher loin de l'emploi et avec des problématiques peut-être de formation encore plus importante.
Et justement, en fait, les personnes en situation de handicap, quand elles sont en train de travailler, tout simplement, y a-t-il une différence de management au quotidien ou pas ?
Il y a de toute façon une différence de management au quotidien, tout simplement parce qu'on ne va pas leur faire les mêmes choses. Hein. Si je prends l'exemple de la relève, essayez d'imaginer que quelqu'un qui était à la maison depuis plusieurs mois fait de la relève à pied. Dans les rues de Toulouse, il faisait 1000 ou 2000 pas autour de son salon la veille, et du jour au lendemain, il en fait 20 000 dans les rues de Toulouse. On a des gens qui ont perdu 8 à 10 kilos dans les 3 premiers mois. Voilà, donc parce qu'ils sont revenus à l'exercice. C'est pas tous, bien sûr.
Oui, oui,
donc naturellement, ce type d'emploi n'est pas obligatoirement bien adapté pour les gens en situation de handicap. Donc on ne va pas obligatoirement avoir les mêmes emplois, donc pas le même management. Parce que les apprentissages et les objectifs ne vont pas être les mêmes. Après, il faut aussi sortir des stéréotypes. Tous, moi le premier, il y a encore 3 ans, hein, quand on pense handicap, on voit tout de suite la personne en fauteuil roulant. Voilà. Et moi, quand je veux casser le stéréotype, je dis le boulanger qui est allergique à la farine, il est aussi un travailleur handicapé. Mmh. Et tant qu'il n'a pas fait une requalification complète dans son parcours, il conserve son statut, entre guillemets, de travailleur handicapé. Et donc, il est, comme vous et moi, a priori en capacité de travailler, mais sauf que bah, il n'a plus de qualification. Mmh. Et donc, tant qu'il n'a pas une nouvelle qualification, il va conserver ça. Donc, il faut bien garder ça en tête que le stéréotype du fauteuil roulant, bah, c'est une chose. Mmh. On a bien sûr des collaborateurs qui sont fortement atteints dans leur chair, hein, dans leur être, mais on a aussi des gens qui on ne pourrait pas imaginer en les croisant comme ça immédiatement qu'ils sont en situation de handicap. Et peut-être que finalement pour eux, intimement, c'est peut-être aussi une difficulté à vivre. Voilà, parce que bah, ce sont des handicaps que l'on qualifie d'invisibles, d'accord, et donc ils n'ont pas toute l'attention non plus de l'environnement. Mmh. Voilà. Donc oui, on va les manager de manière différente, voilà, mais pas plus que ça. On reste une entreprise d'insertion, une entreprise adaptée. Donc le mot entreprise est prégnant, d'accord, et on les remet au travail avec la notion d'entreprise. Et donc normalement, ils sont prêts à rebondir après nous dans le monde de l'entreprise traditionnelle. Alors, il nous arrive de les accompagner encore un petit peu par la suite et d'avoir avec les clients partenaires qui nous embauche des gens en situation de handicap, et ben du conseil, où on va aller chez le client partenaire aménager le poste d'abord, et puis faciliter l'intégration, c'est souvent parler aux collègues de bureau.
Oui, pour déconstruire leur stéréotype, justement.
Voilà, et c'est parler aux collègues de bureau pour leur expliquer ce qu'est la situation de handicap de leurs collègues, parce que sinon, ils vont pas le comprendre, ils vont pas y attacher une importance, une attention particulière. Et donc, c'est important, effectivement, d'en parler avec les gens qui vont finalement faire l'accueil et qui, pour certains, vont entre guillemets, le subir. Voilà, et si on les prépare pas, et c'est souvent les raisons de l'échec, hein, c'est l'environnement proche de la personne en situation d'handicap qui rentre dans une entreprise ordinaire. Le top management en a pris la décision avec toute la bienveillance que l'on peut imaginer, mais a peut-être pas suffisamment bien préparé l'environnement de proximité de cette personne en situation d'handicap.
Après, de plusieurs expériences que j'ai eues dans l'handicap, même plus sur des jobs d'été où j'étais animateur encadrant en centre de vacances personnes handicapées, ce que j'avais eu comme retour aussi, c'était le fait qu'une personne dans une situation de handicap n'a pas non plus envie d'être perçue comme une personne handicapée. Qui a bien entendu, alors si on le compare, du coup je le compare avec le travail, bien entendu il faut aménager un poste, il faut le prendre en considération. Mais la surempathie, l'exagération d'empathie aussi, peut être quelque chose, je ne suis pas dans une situation, je ne sais pas, mais pourrait atteindre l'ego en fait, tout simplement. On n'a pas envie d'être forcément vu comme ça. Je ne sais pas ce que vous avez un avis dessus.
Oui, certainement. Voilà, quand on parle avec nos clients partenaires, ils ont du mal à faire ressortir dans leur propre personnel qu'ils ont déjà les gens qui sont en situation de handicap pour les raisons que tu viens de dire. Voilà, j'ai déjà entendu ça de nos partenaires. Nous, on est en entreprise adaptée. Voilà, donc de toute manière, les gens, s'ils sont arrivés dans notre parcours, c'est qu'ils ont été aiguillés par nos différents partenaires prescripteurs, et donc ils ont été aiguillés sur cette raison de leur handicap. Donc ces gens-là ont affiché d'une certaine manière, n'ont pas de nécessité d'ego à vouloir cacher leur handicap, puisqu'ils sont en entreprise adaptée, donc c'est qu'ils ont une situation de handicap. D'accord ? Donc peut-être qu'ils le vivent mieux. Voilà. Donc nous, chez nous, obligatoirement, ils sont dans l'entreprise adaptée, payés dans l'entreprise adaptée, on sait qu'ils ont une situation de handicap. On le sait seulement qu'ils ont une situation de handicap. Hein. Notre métier, c'est pas de savoir laquelle, et c'est pas de les accompagner médicalement. Voilà, on a un avis médical qui dit qu'ils ont une reconnaissance de travailleur en situation de handicap. Mais pour quelle raison ? Ça ne nous regarde pas. On n'est pas une structure médico-sociale, d'accord ? On est une entreprise. Donc on va utiliser les capacités de ces gens, leurs compétences, pour les mettre au mieux à l'emploi. Donc quand ils sortent de chez nous et qu'on a la chance qu'ils puissent rebondir dans une entreprise ordinaire, bah, ces gens n'ont pas ces problématiques-là, parce qu'ils arrivent d'une entreprise adaptée, l'employeur sait qu'ils arrivent d'une entreprise adaptée, donc je pense qu'on est plus confronté à ces problèmes-là. Par contre, l'employeur, qui lui a dans ses effectifs des gens avec une RQTH qu'ils n'ont pas dite. Je pense que ça existe à beaucoup d'endroits.
Alors juste RQTH, est-ce que tu pourrais préciser pour les auditeurs
auditrices ? Reconnaissance, qualité de travailleur handicapé.
Voilà. Parfait. et du coup, donc, toutes les entreprises aujourd'hui ont une obligation d'avoir 6% de leur masse salariale à partir de 20 salariés, je crois,
oui.
de travailleurs reconnus handicapés. Et j'ai lu sur votre site que lorsqu'une entreprise faisait appel à vous et sous-traitait une partie de ses activités, elle pouvait justement remplir cette obligation.
Alors, une partie de cette obligation.
Une partie de cette obligation, voilà. Jusqu'à 50%.
Voilà, alors jusqu'au 31 décembre de l'année dernière, c'était jusqu'à 50%. Aujourd'hui, il me faut un papier, un crayon pour expliquer les règles, d'accord ? Mais elles ont changé, d'accord ? Elles ont changé, peut-être à juste titre, je ne vais pas critiquer le législateur, mais le législateur était animé par une volonté forte qui était de favoriser l'emploi direct par les entreprises. Voilà. Et ce qui n'est pas absurde, hein, voilà, très sincèrement. Et donc, de pousser à l'emploi direct. Donc, un petit peu fait de décroissance sur notre capacité à faire décroître cette taxe AGFIP pour que les entreprises puissent agir un petit peu plus en propre sur ces aspects-là. Donc, à partir de 20 personnes, elles sont obligées. Et depuis le 1er janvier, même en dessous de 20 personnes, elles ont un déclaratif à faire.
D'accord.
Donc, elles n'ont pas d'obligation, elles n'ont pas de pénalité, puisqu'une taxe, finalement, à partir de ce moment-là, ça devient une pénalité. Elles n'ont pas de pénalité, elles n'ont pas de taxe, mais elles ont aujourd'hui l'obligation de déclaration.
Okay.
Voilà, donc pour que tout le monde soit sensible, parce que on sait que notre tissu français d'entreprise est quand même un tissu de PME.
Tout à fait.
Voilà, et de sensibiliser les PME est aussi une bonne manière de faire pour qu'on puisse favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc aujourd'hui, il y a une obligation même pour les inférieurs à 20 personnes.
Et du coup, en parlant d'évolution réglementaire, donc aujourd'hui, une entreprise adaptée doit avoir plus de 80% de sa masse salariale RQTH.
Alors, jusqu'au 31.
Voilà, justement, il y a un
basculement. 31 décembre. Voilà,
Y a un basculement, justement.
Il y a eu beaucoup de changements à partir du 31 décembre. Donc, jusqu'au 31 décembre, c'était 80% du personnel de production doit être avec cette situation de handicap. Donc, c'est-à-dire le personnel d'encadrement structurel, d'accord, ne rentrait pas dans ce calcul.
Okay.
Voilà. À partir du 1er janvier, on rentre dans un calcul où, y compris le personnel structurel, rentre dans le calcul et quasiment l'obligation s'est inversée.
D'accord.
C'est-à-dire que là, on avait 80% au minimum de personnes en situation de handicap. Et là, aujourd'hui, on nous oblige, mais à juste titre, une fois de plus, hein, à une mixité. C'est-à-dire que on démontre que l'on n'a pas 100% de personnes en situation de handicap, mais au contraire que l'on est mélangé des gens en situation ordinaire et des gens en situation d'handicap. Et donc l'assiette de comptabilité de ces pourcentages est totale maintenant et a pour vocation au fur et à mesure des années à décroître.
D'accord.
C'est-à-dire que de 80%, on va passer très rapidement à des pourcentages inférieurs.
On parle de quoi ? De 60%, 50%.
Je pense que l'objectif, et là je dirais peut-être des bêtises, mais l'objectif du législateur, c'est d'aller vers des entreprises inclusives où on serait aux alentours de 50%, oui, tout à fait.
Okay.
Mais on est sur une démarche progressive.
Est-ce que toi, tu perçois ça comme une menace pour ton business ?
Oui. Voilà, si je le regarde sur un aspect purement business, oui, bien sûr, puisque on a des clients, voilà, et vous remarquerez tous que j'ai enlevé le mot partenaire, on a des clients qui viennent effectivement pour l'optimisation de leurs taxes, voilà, et puis après on a malgré tout, et en très grande partie, des clients partenaires qui sont engagés. D'accord ? Et avec une véritable responsabilité sociétale et qui ceux-là vont pas s'arrêter à ces critères-là. Et donc, moi je pense que c'est ceux-là qui sont les vrais bons clients partenaires et qui sont porteurs du business.
Voilà. Okay.
Donc moi j'aurais tendance à dire on n'a pas nous pléthore de clients et que la grande majorité de nos clients sont plutôt dans cette première catégorie de clients partenaires. Donc la mise en péril de notre business par rapport à ce changement, non, pas réel. Voilà. Très 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 peu. Et puis quelque part, c'est peut-être pas les plus intéressants à garder. Non, mais c'est vrai en termes de relations. Après, c'est toujours intéressant malgré tout d'avoir un chiffre d'affaires plus important. Pourquoi un chiffre d'affaires plus important? Pour gagner plus d'argent. On est une association.
Pour avoir plus d'impact.
Voilà, on est une association, on distribue pas de dividendes. Donc avoir un chiffre d'affaires plus important, c'est pas pour faire une marge plus importante, c'est d'avoir plus d'impact. Aujourd'hui, on est 130 personnes. J'aurais tendance à dire que si on était 150, je ne changerais pas grand-chose à mon circuit structurel. Et j'aurais 20 personnes de plus accompagnées sans faire beaucoup d'efforts. Mais donc, ces 20 personnes supplémentaires, je peux les accompagner que si j'ai du chiffre d'affaires en face. Donc, s'ils ont des choses à produire. Donc, obligatoirement, oui, ma plus grande difficulté aujourd'hui, c'est certainement d'augmenter cette assiette de chiffre d'affaires pour pouvoir tout bêtement augmenter l'impact et pouvoir accompagner plus de personnes. Parce que je suis intimement persuadé, il n'y a pas si longtemps finalement que je suis chez Envoi, que 3 ans, hein, que les mécanismes de l'insertion et les mécanismes de l'entreprise adaptée sont des très bons mécanismes. Soit on peut toujours nous dire, vous avez mis cette année que 30 ou 40 personnes de plus sur au travail. Ouais, mais c'est 30 ou 40 personnes de plus qui sont devenus des citoyens comme Monsieur Tout-le-Monde, qui ont été complètement sociabilisés, qui sont sortis des modes accompagnés du RSA et des autres modes de ce type-là.
Bien sûr.
Et si on est très nombreux à pouvoir en accompagner 30, 40, on va complètement changer la physionomie sociale de notre pays. Donc oui, c'est un petit ruisseau, voilà. Mais très fier de ce petit ruisseau.
Ruisseaux qui font.
Voilà. Très fier de ce petit ruisseau. Et vous voyez, mon ambition, c'est à court terme, 20 de plus. Voilà, c'est faire grossir un tout petit peu ce petit ruisseau. Mais je pense que ce petit ruisseau est important. Ouais.
Okay.
Voilà.
Et quand tu parles de chiffre d'affaires, du coup, on parle combien pour le groupe Envoi?
Aujourd'hui, le groupe Envoi, c'est sensiblement pour les 130 personnes que nous sommes, 6 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Ok. Ouais, ce qui peut un petit peu permettre aussi de déconstruire les a priori qu'on a autour de l'ESS. Parce qu'on peut se dire, dans l'imaginaire collectif, l'entreprise, l'économie sociale et solidaire, ça ne génère pas de chiffres, ça va être compliqué, etc. Là, on parle de 6 millions quand même.
C'est un de mes grands soucis d'image. Voilà. Effectivement, c'est, je l'ai dit, entreprise d'insertion. Entreprise adaptée. Et il y a bien ce E en grand majuscule devant. Et donc, non, on génère de la valeur. On génère de l'emploi, on génère du chiffre d'affaires et on génère de la performance industrielle. Et j'insiste, c'est-à-dire que quand on est EN9100 et qu'on libère des avions, quand on relève les compteurs électriques pour Enedis, derrière, ça génère de la valeur sur tout un circuit. Si on enlève mal les compteurs, Enedis facture mal. D'accord. Et donc, si Enedis facture mal, à l'arrivée, il va mal produire. Et de la même manière pour Airbus. Donc, on est vraiment dans un mécanisme de chaîne de production, de chaîne de valeur. Et on a notre part entière. Et on n'est pas, effectivement, des pousseurs de carton. Et je n'ai aucun mépris pour les pousseurs de carton. Mais il faut sortir des stéréotypes. D'accord. Et on est des véritables entreprises qui avons, en plus, mission d'aller chercher des gens éloignés de l'emploi. Mais on est des véritables entreprises qui génèrent du chiffre d'affaires, qui génèrent du résultat, et on n'a pas honte de ce résultat, parce qu'avec ce résultat, on investit sur l'œuvre sociale, on investit sur le bien-être au travail, et puis on investit pour aller chercher des nouveaux clients, pour pouvoir faire grossir cette assiette. Donc on est même plutôt fiers.
Et justement, comment selon toi on pourrait aujourd'hui développer l'économie sociale et solidaire, enfin l'ESS, que ce soit sur un territoire ou
D'abord, c'est compliqué parce que moi je ne connais pas l'ESS, je connais mon ESS. D'accord. Donc je veux surtout pas être donneur de leçons de l'ESS, je connais mon petit environnement, d'accord. Et puis les gens qui tournent autour de mon petit environnement. Et puis toutes les belles personnes que j'ai eu l'occasion de croiser autour de cet environnement. Et puis sur 3 ans, j'en ai vraiment croisé de très belles. Voilà. Donc oui, j'ai des confrères, je connais des gens dans d'autres entreprises d'insertion, dans d'autres ateliers, chantiers d'insertion, dans d'autres entreprises adaptées. Donc voilà, je connais un petit peu ce petit environnement-là. Je suis très mauvais s'il faut parler de glanerie, de choses qui ressemblent à des choses comme Emmaüs, qui sont des très belles choses. Je connais pas bien et je dirais de grosses bêtises. Donc dans mon petit environnement, qui est un environnement, et j'insiste, d'entreprise, voilà, mon parcours avant d'être chez Envoi était un parcours d'entreprise. Dans mon petit environnement, bah, c'est favoriser effectivement cette entreprise. Voilà, et donc nous favoriser à avoir du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que moi, j'aurais tendance à dire, plutôt que d'avoir uniquement des taxes sur le monde de l'handicap, eh ben, faisons un beau paquet unique sur l'inclusion. Voilà, et que la taxe, elle soit sur une assiette plus large et qu'il soit sur une taxe de l'inclusion. De la même manière, favorisons au sein des institutions les clauses sociales. Quand il y a un appel d'offres d'un conseil départemental, d'une région, d'une métropole, d'une mairie, ils peuvent jouer sur un critère qui sont les clauses sociales. Donc imposer à leurs sous-traitants d'avoir un impact sur le social. Donc après, quand vous avez un expert en ceci ou en cela, il n'est pas expert en clause sociale, c'est une évidence. Donc il va s'adresser à des gens qui vont avoir cette expertise de clause sociale, à des gens comme nous. Et donc il faut à tout prix, à mon avis, qu'on ait ce mécanisme de clause sociale qui nous
permettre
amène
à des entreprises d'insertion
qui nous amène du travail. Et voilà, pour nous aujourd'hui la grosse difficulté, elle est là, elle est d'élargir l'assiette pour avoir un impact plus important. Et donc cet impact, il peut être amené par le politique. Donc on voit, quand on décortique un petit peu les marchés de clause sociale, il y en a qui ont un apport sur certaines choses technologiques, mais on voit une fois de plus beaucoup de stéréotypes autour du nettoyage, du jardinage, voire de la restauration. Il y a des gens qui font très bien la restauration dans ce monde-là. Ça n'enlève rien au travail que font très bien ces gens-là. Mais il faut à tout prix que les gens, les acheteurs publics, élargissent leur assiette de clause sociale et n'aient pas peur d'aller plus loin, d'aller beaucoup plus loin. Messieurs, mesdames, vous avez des directions de services informatiques avec zéro clause sociale dans vos achats de direction de services informatiques. Moi, dans certaines métropoles, je saurais prendre quasiment à 100% toute la charge du service informatique. Et ça, je pense que dans leur image, c'est pas clair.
Ouais.
Voilà. Mais tout simplement parce qu'on nous attend pas là. On est derrière des stéréotypes. Et donc, il faut casser ces stéréotypes. Et je pense que ça peut passer aussi par le législateur qui élargit ses assiettes d'apport au travail. Très sincèrement, on a besoin de subventions, bien sûr, puisque on a un suraccompagnement, on a un sureffectif. Oui, on a besoin de subventions, mais on a d'abord besoin de travail. Et quand je vais voir les gens, moi, je leur dis, je veux pas de sous, je veux du travail. Parce que c'est par le travail, par la sous-traitance, que nous, on va remettre les gens au travail aussi. Donc ma première quête aujourd'hui, elle est d'aller chercher des nouveaux partenaires.
Ok. Alors du coup, là, on a bien parler du groupe Envoi et de tout son impact justement à travers ses différentes activités. Et j'aimerais qu'on se recentre plus sur toi.
Oui.
en tant que dirigeant. Alors déjà, tout à l'heure, tu m'as dit quelque chose qui était assez intéressant et j'aimerais qu'on revienne dessus. C'est « je ne doute pas, j'hésite ». Je trouve ça génial. Alors, est-ce que tu pourrais en dire plus, justement?
Douter, pour moi, c'est très profond. Voilà. Et ça remet beaucoup de choses en place. Voilà. Donc, je n'ai pas ce doute. Voilà. Je n'ai pas ce doute de la position d'Envoi. Je n'ai pas de doute sur ma position sur Envoi. Par contre, en tant que dirigeant, de temps en temps, on peut hésiter. On peut hésiter à prendre une décision. D'accord. Même si le grand axe stratégique, j'aurais tendance à dire, et la stratégie, c'est un grand mot, mais si le grand axe stratégique, il est clair. J'en ai donné un tout à l'heure, une image tout au moins. On peut passer à 150, 160 aisément, et donc on a bien compris que c'était un de mes axes stratégiques. Et après, c'est le comment. D'accord. Et donc on peut être dans l'hésitation du comment. Le comment, c'est je peux hésiter entre me dire je dois trouver 30 personnes de plus chez Airbus, parce que j'ai dit que j'avais un partenaire client important qui est chez Airbus, ou est-ce qu'il faut que j'aille chercher 30 finalement équivalent temps plein chez des nouveaux partenaires. Donc là on peut être dans l'hésitation, mais le doute je l'ai pas, c'est 30. Voilà. Et donc voilà, on peut être dans l'hésitation du comment, voilà, mais pas du quoi. Voilà. Okay. Et pour moi le doute c'est le quoi et pas le comment. Alors, donc après, pour lever ces hésitations, c'est assez simple, hein. J'ai la chance d'être dans une association avec un président que je qualifie moi-même d'hors norme, voilà, et puis d'avoir autour de moi une très belle équipe. Très belle équipe avec des gens avec la tête bien faite et puis surtout on a tous la même motivation qui est cet engagement social. Donc tout simplement, sans même s'en rendre compte, on fait de l'intelligence collective et on va lever ensemble ces hésitations. Okay. Voilà. Et sans aucune prétention, on ne fait pas un atelier d'intelligence collective, mais finalement on en fait. Voilà. Et ensemble, on va se donner ces bonnes directions et choisir notre politique derrière notre stratégie.
Okay. Voilà. Et du coup, j'ai l'impression en fait que chez Envoi, vous ne vous trompez jamais en fait.
Non, l'échec existe. Voilà.
Et alors, du coup,
bien sûr qu'on peut se tromper, bien sûr qu'on peut être dans l'échec. L'échec est constructif. J'adore le modèle anglo-saxon de l'échec. Un banquier anglo-saxon va dire, vous êtes déjà trompé, donc vous ne vous retromperez pas, donc je vous prête de l'argent. Un banquier français, vous êtes trompé, donc vous allez vous retromper, donc je ne vous prête pas d'argent. D'accord. Voilà, donc j'adore ce modèle anglo-saxon, et puis on ne peut nous... que adorer ce modèle de l'échec. Les gens qu'on accompagne, pour certains, étaient à l'échec. Donc si on pense qu'ils vont retomber dans l'échec, obligatoirement, il ne faut pas les accompagner. Non, au contraire, on les accompagne, on est fous. D'accord. Donc, et on s'aperçoit qu'à l'arrivée, 70% de résultats. L'échec, bien sûr que ça nous arrive, bien sûr qu'on se trompe. Bien sûr que quand on hésite entre la voie A et la voie B, que de temps en temps, on prend la voie B, pas de chance, c'était pas la bonne. On fait demi-tour et puis on en prend une autre. Comme tout le monde, comme toute entreprise. Voilà, c'est des décisions d'entreprise. Au moment où on prend la décision, on l'a prise. Et on y va à fond. Voilà. Et puis une fois qu'on est parti à fond, s'il le faut, on accélère. Voilà. Et puis on finit en sprint. Mais dans tous les cas, la décision est prise. Et puis si c'est l'échec, il y a un moment, on est dans le mur. Ça fait mal. Comme les autres, et puis on s'arrête, et puis sans le faire exprès, une fois de plus, on fait de l'intelligence collective, donc on fait du retour d'expérience, et puis on se dit, cette erreur-là, on l'a faite, on va se construire, on va le faire autrement maintenant, mais l'ambition reste la même.
Ok, donc là, t'es arrivé même sur la fin à dire comment est-ce que vous remobilisez après un échec, en fait, chez Envoi. Apprentissage.
J'ai trouvé une chose chez Envoi et je regrette pas du tout mon passé, mais chez Envoi on a une mobilisation immédiate, on a quelque chose qui nous fait tous vibrer ensemble, voilà. Chose que j'ai pas trouvé dans d'autres entreprises, l'objectif c'est quand même très souvent d'augmenter la marge. D'accord, pour augmenter finalement les dividendes des propriétaires, même si naturellement une partie de cette marge améliore la vie des collaborateurs par l'augmentation des salaires et des choses de ce type-là, je ne nie pas. D'accord. Mais ici, vraiment, ce qui nous anime tous, c'est cet engagement social. Je vais donner un exemple. Quand je suis arrivé, on avait un système qualité, parce que j'ai oublié de le dire, mais on a un vrai management par la qualité. De toute façon, on ne peut pas être EN9100 si on n'a pas un vrai management par la qualité. Et il nous manquait finalement les axes de notre politique qualité. Et je venais de débarquer. Hein. J'ai dit, les axes, on va les mettre en place. Et j'ai dit, il y a trois axes. Le premier, c'est l'engagement social. Le deuxième, c'est la pérennité. Et le troisième, c'est la satisfaction client. On a besoin de la satisfaction des clients, donc de faire du travail de qualité pour assurer la pérennité. Et c'est par la pérennité qu'on va assurer notre engagement social. Donc le premier, c'est l'engagement social. Et finalement, immédiatement, tout le monde dans l'entreprise s'est retrouvé sur ces trois piliers. Pourquoi ? Parce que le plus important, finalement, tout le monde l'avait en soi. Personne ne l'avait finalement verbalisé. Et le management par la qualité a permis de verbaliser ce que tout le monde avait en soi. Et finalement, ce que je venais moi chercher, parce que j'ai fait ça tout au début, mais ce que je venais chercher chez Envoi. Voilà. Donc on l'a clairement verbalisé et on l'a décliné absolument partout. Il est chez Envoi, par exemple, impossible que je vous invite à un cocktail, d'accord, sans que le traiteur soit un traiteur de l'économie sociale et solidaire. Ça sera très certainement une entreprise adaptée. Je vous fais boire du champagne, et ben j'importe mon champagne d'un ESAT de Reims. Mon vin calme est d'un ESAT de la région. Voilà, pour avoir une petite empreinte carbone un peu moins importante. Mais le champagne, c'était obligatoire. Et donc, quel que soit l'achat que l'on va faire, on va essayer, dans la mesure du possible, de faire travailler cette économie sociale et solidaire. C'est-à-dire que toutes les briques de notre système qualité vont être déclinées sur ces trois axes-là.
Ouais.
Voilà. Et ça, c'est vraiment très, très, très prégnant.
C'est un véritable écosystème, en fait, finalement, l'ESS.
J'espère que les autres ont le même réflexe que nous. Voilà. Mais dans tous les cas, nous, ça sera notre réflexe parce que cet engagement social est vraiment ce qui nous fait tous vibrer. Et quand on fait ce retour d'expérience et comment on se remobilise, on se remotive de toute manière tous après l'échec derrière cet engagement social qui est notre mobilisation. Voilà, d'accord, on s'est planté. Oui, ce qu'on espère surtout, c'est pas se planter et faire de la casse sociale. Ça, c'est certain. Pour l'instant, c'est pas arrivé sur les 3 ans. Mais dans tous les cas, on se remobilise et on repart parce que c'est une bataille de tous les jours.
Et donc tout à l'heure, tu faisais allusion à ton parcours. Tu venais donc d'une entreprise traditionnelle avant, et tu es arrivé chez Envoi, donc avec un fort engagement social. Ma question, c'est comment est-ce qu'on devient finalement entrepreneur social ? À quel moment tu t'es dit, moi dans mon quotidien, j'ai envie d'avoir un impact ?
Alors, je ne suis pas entrepreneur social parce que je n'ai pas entrepris. Pour moi, celui qui entreprend, il est d'un courage phénoménal parce qu'il part de la feuille blanche. Moi, je suis directeur d'Envoi, donc je suis salarié. D'accord ? Donc, je n'ai pas ce courage. Voilà. Et ce n'est pas à mon âge que je vais l'avoir, certainement. Donc, moi, je suis arrivé chez Envoi après pas loin de 30 ans dans le monde de l'ingénierie. 30 ans sur Toulouse. Toujours, finalement, à l'arrivée, le même client, mais je pense que c'est un poumon régional non négligeable. Donc toutes les entreprises d'ingénierie de la région ont plus ou moins ce client. Donc je travaillais déjà fortement pour ces entreprises d'ingénierie chez ce client. Et puis, fin de carrière dans l'ingénierie peut-être un petit peu difficile. Et puis je me suis retourné sur moi-même. Et puis les hasards de la vie ont fait que j'ai rencontré un ex-collaborateur d'Envoi qui m'a dit est-ce que tu connais Envoi? Je dis non, et c'est vrai que depuis 3 ans c'est un de nos combats, c'est sortir de l'anonymat, et qui a commencé à m'expliquer Envoi. Et puis je lui ai dit mais c'est génial ce truc là, je veux en savoir plus. Puis à ce moment là il m'a dit mais tu peux en savoir plus tout simplement parce qu'Envoi cherche son nouveau directeur. Je dis ah voilà, donc c'est les hasards de la vie, c'était fait comme ça. Et donc j'ai rencontré à ce moment là le président. Et puis le courant il est passé tout de suite. Et puis c'est une de mes belles chances. Voilà, c'est finalement d'avoir croisé la route de ces gens-là que je connaissais de longue date et qui m'ont offert cette opportunité. Mais vraiment, je le vois comme un beau cadeau.
Ok, c'est le hasard qui a fait bien les choses.
Oui, voilà. Je dois avouer humblement que j'étais pas en recherche particulièrement sur ce domaine-là. Je n'étais pas en recherche. Voilà, tout simplement, je n'étais pas en recherche du tout. J'étais en train de me dire qu'est-ce que je vais faire sorti de ma dernière entreprise. Et entre guillemets, ce bonheur m'est tombé dessus, comme ça peut arriver de temps en temps. Donc naturellement, j'y étais déjà sensibilisé. J'ai une application personnelle dans le monde associatif, à proximité de chez moi, ou des choses de ce type-là. Oui, bien sûr, je ne suis pas arrivé de rien.
Bien sûr.
Voilà. Mais voilà,
déjà des valeurs à la base qui étaient là.
Mais ce bonheur m'est tombé dessus.
Ok, c'est très chouette. Alors, ça fait un peu plus d'une heure qu'on parle. Déjà, merci Thierry pour ces propos, enfin cet échange qui était très instructif. Avant de terminer, déjà, est-ce que tu aurais des structures, des organisations, des entrepreneurs à qui tu voudrais faire une une petite mention sur ce podcast ou une petite dédicace. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient en tête?
Oui, j'en ai plusieurs qui me viennent en tête. J'ai eu la chance à mon arrivée chez Envoi que Madame Élodie Bonnet de la Directe organise une sorte de séminaire de tour de table autour du numérique et de l'insertion par l'activité économique. Mmh. Mais plus sur le côté digitalisation, transformation numérique de l'entreprise, hein, que la vente du numérique. Et puis, elle avait fait un tour de table avec cette entreprise, donc de l'insertion. Mmh. Et puis, moi, je représentais finalement le nanti, celui qui avait le gros chiffre d'affaires, celui qui non seulement était équipé d'un point de vue numérique, mais qui en plus en faisait le commerce. D'accord ? Et à côté d'entreprises qui, elles, partaient de la feuille blanche et étaient encore quasiment papier-crayon. Et j'ai trouvé, cette expérience très enrichissante, parce que moi, je débarquais, et donc d'être confronté à cet environnement social et engagé très fort était intéressant. Et puis, avec une grande partie de ces gens, on a pris l'initiative de nous-mêmes de se voir tous les troisièmes vendredis de chaque mois.
Ok.
Voilà. Au relais du Japon, donc chez Francis Saint-Blanca du relais du Japon, qui a très vite pris cette initiative. Et on est maintenant encore 4 ou 5, voilà, à se réunir au relais du Japon ou ailleurs, puisqu'on va maintenant régulièrement sur d'autres associations qui n'étaient pas dans ce groupe initial de 7. Mmh. Par exemple, on va aussi de temps en temps déjeuner chez Olam de Gouges, qui est une très belle association également. Et donc, si j'avais un petit clin d'œil à faire, c'est plutôt à ces gens, à ce petit groupe, à ce micro-cluster qui s'est créé à l'insu, de la Directe, sans que ça soit la volonté de Madame Bonnet. Et à chaque fois que j'ai l'occasion, je la remercie de cette initiative, parce que sans le savoir, elle m'a fait énormément grandir et plus vite, parce que j'aurais découvert les choses beaucoup plus lentement. Et grâce au contact de ces gens-là, j'ai découvert les choses beaucoup plus vite.
Ok, super. Merci beaucoup. Pour terminer, je vais te poser une dernière question. Et la réponse à ta question sera disponible dans le groupe Facebook de Par Ici Podcast. Est-ce que tu es prêt?
Ça dépend de la question. Tu me fais peur.
Je tease un peu. Pour quelqu'un qui lance un projet, notamment dans l'économie sociale et solidaire, est-ce que tu aurais un ou plusieurs conseils à lui donner?
Alors, oui.
Et voilà, notre discussion avec Thierry s'achève ici. Avant de terminer, j'aurai une dernière question, mais cette fois-ci c'est à vous, chers auditeurs, auditrices, que je m'adresse. La semaine dernière, je vous avais demandé de regarder le temps que vous passez chaque jour sur votre téléphone. C'est juste une option dans vos paramètres. Qu'avez-vous remarqué? Pensez-vous pouvoir réaffecter une partie de ce temps passé sur votre téléphone à d'autres activités? Je vous laisse réfléchir à une réponse et je vous dis à la semaine prochaine. Expirez par ici. C'est fini.